7h26 minutes. On va faire le point sur la COVID. Ce matin, il y a un certain nombre d'éléments. D'abord, les chiffres d'hier qui montrent que ça demeure élevé. Un peu moins d'hospitalisation, un peu moins de cas aussi aux soins intensifs. Mais quand même, on voit qu'il y a beaucoup de transferts qui se font, par exemple, dans les centres de soins de longue durée, des patients qu'on doit déplacer. Je vais regarder tout ça ce matin avec le directeur de la santé publique en Estrie, Dr Alain Poirier. Dr Poirier, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Juste avant d'aller plus loin, il y a Moderna qui dit ce matin avoir demandé la permission de pouvoir utiliser son vaccin, donc dans des cas urgents. Il dit que son vaccin, selon les dernières données, aurait un taux d'efficacité de 100% pour prévenir les complications sérieuses. Êtes-vous capable de m'expliquer ce que ça veut dire d'obtenir l'autorisation de l'utiliser dans des cas urgents?
Ben, il y a tout un processus d'homologation habituel pour médicaments et vaccins qui est accéléré en ce moment parce que les données sont regardées avant même que les études soient finies. Donc, la transformation actuelle, je la connais pas en détail, mais c'est ça qui est toujours expliqué, c'est que normalement, tout ça se fait en séquence et ça prend du temps. Puis, ça prend la volonté et l'investissement des compagnies. Là, on n'est pas du tout dans cette situation. Tout est partout, sur tous les pays, les organismes comme nous, chez Santé Canada, qui font l'homologation, vont beaucoup plus vite. Et puis, parfois, ils peuvent autoriser quand des données sont pas complètes en situation urgente. Donc, j'ai pas entendu cette nouvelle matin de Moderna, mais voilà. Ça se peut très bien.
Une question technique des auditeurs. Quand les Américains l'approuvent, la Food and Drug, est-ce que Santé Canada suit presque tout de suite et rapidement?
Ben, habituellement, non. Il y a tout un processus très indépendant. Quoique les données et ce qui est proposé par les compagnies elles-mêmes, qu'elles soient américaines, européennes ou peu importe, c'est ça qui est analysé par nos propres gens. Évidemment, de savoir que les voisins qui ont un processus sérieux aussi l'ont fait, ça peut aider, mais c'est vraiment très indépendant ce que Santé Canada et la Food and Drug américaine fait. Bon, dans ce cas-ci, tout risque d'être très rapide. Et c'est les compagnies habituellement qui décident. Hein. Si une compagnie peut décider que le marché n'est pas suffisant, ça ne sera pas le cas, là, je vous rassure tout de suite.
Ouais.
Mais une compagnie pour un médicament X pourrait décider, ah non, c'est trop petit, le Canada ou un autre pays, on ne va pas faire toutes les étapes là-bas. Dans ce cas-ci, c'est pas une inquiétude, les étapes et les homologations vont se faire partout.
OK, je regardais les chiffres sur le plan national, donc le nombre de cas demeure élevé. Ça se passe comment en Estrie?
Ben, c'est très semblable, c'est-à-dire que nous, on a retardé un bout, on est rouge depuis 3 semaines maintenant, et hier, par exemple, on faisait le tour des régions en parlant avec tous les directeurs et Dr Arruda hier soir, et c'est très semblable, c'est-à-dire que malheureusement, il y a beaucoup d'éclosions. Les éclosions, c'est quand on trouve qu'il y a une contamination qui se passe dans un milieu. C'est beaucoup dans des entreprises, mais c'est des petits nombres. Si on regarde les nombres, ah ben là, c'est plutôt dans nos, vous l'avez dit d'entrée de jeu, nos milieux d'hébergement, nos CHSLD, parce que là, il y a les usagers, mais il y a aussi tous les travailleurs. Et donc, grosso modo, dans le Québec, et c'est la même chose en Estrie, c'est à peu près la moitié de toutes nos personnes qui actuellement, on les appelle des cas actifs, c'est-à-dire qui ont fait la maladie et qui ont encore le virus, doivent être encore isolés, ben près de la moitié des personnes, non pas des nombres d'éclosions, parce qu'il y en a plus dans chacun de ces milieux-là, c'est dans nos milieux où sont nos aînés, et ce sont eux qui se compliquent, qui font les hospitalisations, les décès et tout. Alors donc, ça, c'est plutôt préoccupant. Quand c'est dans des écoles ou des entreprises avec des jeunes travailleurs, ben c'est plate pour les gens manquent d'école ou ils doivent fermer l'entreprise ou etc. Mais il y a moins de conséquences sur leur santé. Donc, le nombre qui nous préoccupe, c'est celui de tous les cas dans des lieux fermés là, où vivent nos aînés qui ont plus de maladies parce qu'ils ont le fameux récepteur du virus hein, sur leurs cellules. Ça vient avec l'âge. Les tout petits en garderie puis à l'école, non, transmettent peu, ont peu de charge de virus parce que biologiquement, ils le captent moins, ils l'absorbent moins, ce virus-là.
Là, je regardais ce matin, par exemple, à Sherbrooke, on dit que le centre de confinement où les patients testés positifs étaient envoyés serait actuellement complet.
Oui, ça fait déjà un bout qu'on n'a pas beaucoup de place pour... En fait, on peut toujours garder les gens dans ce qu'on appelle une zone rouge pour les soigner, les malades, mais quand on peut, si on veut limiter la propagation dans un milieu X, Y, Z partout en Estrie, on peut toujours envoyer au centre de confinement des gens. Alors, donc, par définition, c'est tous des gens positifs qui sont là. Mais le malheur, c'est aussi que on a beaucoup de travailleurs dans ce lieu qui se sont contaminés. Alors, on les amène à un endroit pour préserver les autres patients, mais nos travailleurs, eux, finissent aussi, éventuellement, c'est pas le premier jour, mais ça peut arriver pour toutes sortes de raisons qui se contaminent. Alors là, on a les deux. Oui, on a un centre de confinement qui peut difficilement recevoir de nouveaux patients. Puis en plus, on a beaucoup de travailleurs infectés qui évidemment sont retirés. Puis ça aide pas la situation.
OK. Au printemps, en fait, lors de la première vague, on a découvert évidemment qu'on manquait d'équipement, qu'on manquait de personnel, qu'il n'y avait pas de respect nécessairement automatiquement des zones, les gens qui changeaient d'établissement. Bon, là, on s'est fait dire, cette fois-ci, vous allez voir, ça va être différent. Là, on a de l'équipement, les gens savent l'utiliser, il y a moins de va-et-vient. Bref, on a un meilleur contrôle. Ça semble être vrai quand on regarde, là, on fait une comparaison entre le printemps et maintenant. Mais beaucoup de gens se disent, comment ça se fait qu'il y a encore des employés qui sont contaminés?
Bien, d'abord, c'est un virus invisible. Quand on regarde la liste de procédures, combien de fois il faut se désinfecter les mains, enlever l'équipement, l'équipement de protection, on relave les mains, on fait ci. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes où il y a un risque de se contaminer. Il y a peut-être une petite portion qui vient de l'air, les fameux aérosols, mais encore dans les avis scientifiques, c'est oui, ça peut exister, mais c'est vraiment c'est probablement la minorité. C'est vraiment en touchant le masque, en se touchant les mains, en s'occupant des patients. Qu'est-ce que vous voulez, les patients, comme je le disais tantôt, plus ils sont âgés, plus ils ont une bonne charge virale, plus ils sont malades, tous crachent, plus il y a des sécrétions contaminées. Alors, la bonne nouvelle, c'est que malgré le nombre, on a plus de cas au total, puis de cas actifs dans cette vague-ci, dans la deuxième, que la première, puis on en a moins d'hospitalisés aux soins intensifs. Donc, il y a quand même une bonne part, une bonne amélioration, mais reste que le risque de surcharger et puis de monter graduellement le nombre d'hospitalisés, de soins intensifs, et il est encore là. Il est moins pire qu'à la première vague, mais compte tenu qu'il y a plus de cas dans la population, ben il n'y a pas d'étanchéité entre les groupes d'âge, alors on se rend jusqu'à nos aînés.
Qui sont à la fois porteurs souvent du virus, par en même temps qui sont dans ces établissements les plus vulnérables, qui ont une série de pathologies qui peuvent avoir des complications et éventuellement mourir. Donc.
Oui, c'est le cas. Même quand ils n'ont pas de complications sous-jacentes, ils font plus de virus. Le virus fait exploser leurs cellules, endommage les poumons, endommage d'autres organes. Un virus, c'est pas limité aux poumons, hein. Ça va dans la circulation. Quand on fait de la fièvre, c'est parce qu'on l'a partout. Donc, quand il va partout, il peut atteindre aussi d'autres organes chez des gens qui n'avaient pas nécessairement d'atteinte. Mais par définition, quand on est dans un CHSLD, c'est un centre hospitalier, on manquait d'autonomie, on a besoin de soins. Donc, par définition, les gens ont habituellement une autre maladie sous-jacente. Fait que 1 + 1 + 1, ça fait plus d'hospitalisation, soins intensifs et malheureusement de gens qui décèdent.
Bon, il y a un bout qui m'échappe depuis quelques jours. Ça concerne les tests rapides qui ont été livrés au Québec par le gouvernement fédéral, qui ne sont pas utilisés. Docteur Arruda dit, le ministère de la Santé, il faut poursuivre, là, voir la validité de ces tests. Là, on regarde ça de l'extérieur, on dit, mais pourquoi pas les utiliser? Ils sont approuvés par Santé Canada.
Bien, c'est parce qu'il y a des conditions particulières. Quand on dit rapide, c'est un peu trompeur, parce que c'est plus rapide d'avoir le résultat, mais on ne fait pas des centaines sur une machine, on ne fait pas des centaines de tests de dépistage. Donc, il y a des conditions particulières. Puis comme ils ne sont pas aussi sharp sur le diagnostic, c'est-à-dire, mettons que vous avez la COVID, mais c'est pas 100% des gens qui ont la COVID pour lesquels le test va dire « oui, tu l'as ». Il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la sensibilité. Ils sont moins sensibles pour détecter les malades. Donc, avec les deux arguments que je viens de noter, on voit que c'est pas tout à fait la même utilisation qu'on peut faire. Donc, dans des endroits je sais pas moi, plus éloignés, par exemple. Ça, c'est un exemple qu'on a donné. Ben, le test rapide, il est peut-être, on veut l'avoir le résultat rapidement pour isoler, pour dire aux gens vous l'avez ou pas. Et puis, le résultat peut arriver rapidement, mais il faut les faire un par un. Donc, oui, il est rapide, n'est pas tant que ça quand on a beaucoup de volume. Et puis, son résultat, il faut qu'il soit interprété avec pas mal d'attention. Donc, ça, c'est juste deux critères qui fait que c'est pas l'un pour l'autre. Parce que si on fait juste dire test rapide, on se dit, ben, pourquoi on l'utilise pas s'il est plus rapide que l'autre? Mais il est rapide, mais pour donner son résultat, mais pas nécessairement pour la manipulation, puis il n'est pas aussi efficace. Donc, on peut faire des erreurs avec le test. Alors, il y a une liste de situations où il pourrait être utilisé, qui n'est pas juste de dire, ben, on remplace l'autre. Oui, c'est pas un parallèle de dire, ben, il est plus rapide, donc on le fait.
C'est en train de devenir pratiquement une bataille fédérale provinciale. Ottawa dit, ben là, c'est approuvé par Santé Canada, les autres provinces s'en servent, pourquoi le Québec boude?
Ben, honnêtement, tout le détail de par rapport, je viens de vous donner deux critères, ouais, oui. Il y en a toute une série d'autres, il n'y en a pas un seul appareil. Et puis, une autorisation réglementaire par Santé Canada, ce n'est jamais automatique. Hein. Ça va être utilisé, on va l'acheter, on va l'utiliser. C'est jamais ça. Il est efficace en telle condition. Si vous avez les conditions, utilisez-le. Si par contre, vous êtes capable de faire des tests, les autres tests, sans trop de délai. On a eu à une époque, et selon les régions, beaucoup de délais. Si je prends l'exemple de l'Estrie, nous, on l'a moins examiné parce qu'on n'en a pas vraiment de délai. On arrive, dans nos critères, en dedans de 24 heures, de retourner des résultats aux gens. Donc, vous voyez, même aussi, selon l'organisation dans chaque endroit, la distance à parcourir pour déplacer les spécimens, les tests et tout, ben il peut y avoir des décisions qui varient un peu selon ce qu'on a vraiment besoin partout sur le territoire du Québec.
OK. En terminant avec votre expérience, quand vous regardez les chiffres des derniers jours, les moyennes mobiles, demain c'est le 1er décembre, avez-vous l'impression que c'est réaliste de penser aplatir cette courbe? Là, on est dans des niveaux pas aussi élevés que le printemps dernier en termes de cas d'hôpital, mais quand même, là, nombre de décès, là, le nombre de gens aux soins intensifs aussi. Pensez-vous que ça peut baisser vraiment avant Noël? On le souhaite,
Il y a deux semaines, je le souhaitais grandement, puis je tapais sur le clou en disant il faut, parce qu'on a encore deux semaines avant même le 1er décembre. Là, on y arrive, puis on n'a pas vraiment baissé, ni chez nous d'ailleurs. Donc, il y a comme une espèce de... votre question, est-ce que c'est réaliste? J'en doute de plus en plus, puis on a l'impression que les gens sont un peu épuisés de nos mesures sévères, mais en même temps, le gouvernement, puis même la santé publique, ne veut pas nécessairement diminuer les mesures parce qu'on n'a pas de résultats, on n'obtient pas. Fait qu'il y a un cercle vicieux. Les gens sont épuisés, suivent moins les mesures restent sévères, on tourne en rond dans notre dynamique. Et puis, si j'avais la solution ce matin, je vous la donnerais. je la donnerais aussi au docteur Arruda, mais c'est pas évident. On a l'impression parfois qu'il faut garder des mesures sévères. Moi, c'est une opinion, là. Il n'y a pas des tonnes de science derrière ça, mais j'ai l'impression qu'il faut être plus sévère avec des individus délinquants et puis peut-être laisser la majorité des gens qui font bien les choses. Dans certains milieux, j'ose même pas en nommer, mais dans certains milieux, on pourrait peut-être dire on laisse aller un peu plus de liberté, mais ceux qui suivront pas les consignes, un peu comme sur la route, c'est l'exemple bête que j'ai déjà donné, on ferme pas une autoroute parce qu'il y a quelqu'un qui va trop vite. On arrête la personne qui va trop vite, on lui retire son véhicule, etc. Donc, je fais mon possible. J'essaie de voir des parallèles avec d'autres mesures. Quand les gens sont épuisés de suivre les consignes, je dis pas que c'est tout le monde, là. C'est la majorité font bien et puis se préparent pour Noël de façon sérieuse. Moi, je parle à beaucoup de gens. Comment vous allez faire ça? On voit toutes sortes de témoignages. Donc, beaucoup de gens veulent bien le faire, mais les chiffres ne baissent pas. Et on en a pas mal chez nos aînés, graduellement, doucement. Doucement n'est pas le bon terme parce que ça nous inquiète. Mais ça, c'est pas bon signe rendu là au début de décembre. Il faut faire un effort encore une fois parce que je suis pas sûr que les mesures vont. Je suis à peu près certain que les mesures bougeront pas avant Noël. Et puis, pour l'instant, on n'est pas parti dans le bon sens pour diminuer les cas.
Merci beaucoup, Dr Poirier. Bonne journée.
Bonne journée, M. Charcan.
Dr Alain Poirier, qui est le directeur de la santé publique de l'Estrie.